I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ce générique, qu'il vous foute des frissons ou la gerbe, vous le connaissez. Mais si dans Game of Thrones, on a tendance à couper des têtes avant de vérifier les infos, dans Affiché, avant de balancer la série par le grand trou de la Porte de la Lune, on veut lui accorder un véritable procès.
Boys, take his gun.
Quand on a une plage dans la tête...
What you got between your legs is your business and what I got is mine.
You may not be able to fight like a samurai.
So fat.
But you can at least die like a samurai.
Et ne pas laisser le cinéma français tranquille.
Empieza el matriarcado.
Dracarys.
Bienvenue dans un nouveau procès de série de ce splendide podcast qui est Affiché. Je suis Élix Martineau, chargée des podcasts chez Mademoiselle, et aujourd'hui, je suis accompagnée de Mélanie et Mimi, mes deux avocates du jour, tandis que je me ferai juge totalement impartial de ce procès sur Game of Thrones. Bonjour à toutes les deux, je vous propose de vous présenter en précisant de quel côté vous serez aujourd'hui, Mélanie.
Bonjour, alors je m'appelle Mélanie Wanga, je suis la directrice des rédactions de Mademoiselle et de Rocky, et je serai l'accusation aujourd'hui. L'accusation de Game of Thrones, cette série qu'on a toutes et tous regardée durant les années 2010, accrochée à nos sièges, et dont il y a beaucoup, beaucoup à dire. Donc voilà, j'ai amené mes petites... Mais alors j'ai entendu dire que la Défense avait préparé toute la nuit, qu'il y avait eu des appels à HBO et tout, donc voilà, il va falloir voir, mais j'ai aussi de la ressource.
Ok, Mimi.
Je suis Mimi, je suis la rédactrice en chef de Mademoiselle. Je suis aussi, puisqu'on en parle, derrière les récaps rigolos de Game of Thrones, que vous avez peut-être, chers auditeurs et auditrices, regardé sur Mademoiselle après chaque épisode pendant 3 saisons.
Et si vous ne les avez pas regardés, vous aurez les liens dans les notes de ce podcast.
Et allez-y, si je puis me permettre, généralement c'est débile mais c'est très drôle. Je serai bien évidemment du coup la défense de cette série, dont j'étais fan avant même qu'elle existe.
J'adore les gens comme ça, tu sais, c'est trop...
Je savais avant, en fait.
Non, mais en fait, je reconnaissais avant, sois cool.
Bah, merci à toutes les deux, je vous sens prête à foutre le feu, donc ça fait plaisir. Je rappelle juste qu'il s'agit d'un procès en 3 parties. D'abord l'instruction, ensuite le retournage de cerveau, puis le jugement. Et avant de commencer, je me permets de faire une petite piqûre de rappel sur Game of Thrones, qui est la série, comme on l'a dit, des années 2010. Diffusée pour la première fois en 2011 sur HBO, la série a conquis la terre entière en devenant la plus regardée de la plateforme avec 18,4 millions de téléspectateurs en moyenne et 30 millions de fans. Si vous ne la connaissez pas, c'est que You Know Nothing, Jon Snow. Pendant 8 saisons, on découvre des épisodes de 40, puis 50, puis carrément 1h30 en YOLO total, qui suivent les intrigues complexes du continent de Westeros et des familles Lannister, Stark, Baratheon, Greyjoy, Targaryen et Tutti Quanti, qui résident et se battent pour savoir qui va enfin poser son cul sur le trône de fer pour gouverner tout ce beau monde. C'est l'adaptation de la série de romans de George R.R. Martin,
connu sous le nom de Grum.
Et donc c'est David Benioff et D.B. Weiss qui l'ont adapté et qui ont révélé au monde entier des acteurs comme Kit Harington, Emilia Clarke, Sophie Turner, Peter Dinklage, Maisie Williams et j'en passe, car ce podcast ne dure pas 8 heures. D'abord série au budget sympatoche mais pas ouf de 5 millions de dollars par épisode, le montant triple jusque dans la dernière saison où le montant moyen d'un épisode est de 15 millions de dollars. Cela lui vaut le titre de série la plus chère jamais produite. Et de nombreux préquels sont en préparation, espérant jouir du quart du succès de cette série phare. Game of Thrones, c'est violent, c'est cru, et sur la fin, c'est parti en cacahuète. Et pourtant, c'est la dernière série à avoir réussi à rassembler autant de monde devant un poste de télé à une heure précise, maintenant que Netflix et les autres plateformes diffusent tous les épisodes d'une série d'un coup d'un seul. Nous rassembler tous, non. Car une irréductible personne résiste encore et toujours à l'engouement autour de la série, que la plupart considèrent comme l'une des meilleures de tous les temps et sûrement l'une des plus fédératrices malgré ses défauts, comme Maître Mimi Hegel, avocate de la Défense. Il s'agit de Mélanie Wanga, qui trouve que franchement, ils se sont chiés dessus.
Ah bah, sur la fin, oui. Il y avait du caca dans la culotte, hein. On va pas se mentir. Hein.
Je lance l'instruction. C'est parti.
Round 1.
Je rappelle, Maître Mimi et Maître Mélanie, que pendant l'instruction, vous établirez votre rapport à la série et que vous engagerez chacune votre tour dans une diatribe ou une apologie de la série selon votre rôle. Je vous demanderai de laisser l'autre parler. Je sais que vous avez des choses à dire. Bien sûr, vous pouvez demander une objection à mon honneur. Et la mauvaise foi est totalement acceptée, si ce n'est encouragée. Maître Mélanie, à l'accusation, c'est à vous.
Alors, Game of Thrones, j'ai regardé dès la première saison sur HBO, j'étais vraiment au taquet. En fait, j'avais entendu parler de la série parce que je commençais ma carrière de journaliste à cette époque-là. J'ai tout de suite regardé, je regardais déjà beaucoup de séries et tout. Et vraiment, dès le premier épisode, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, waouh, enfin une série en fait, où il se passe un truc à la fin où tu te dis, mais j'ai envie d'être dans ce monde, j'ai envie de comprendre ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que c'est très étrange, parce que j'ai une relation d'amour-haine maintenant. Parce qu'elle m'a fait vivre des belles choses, mais comme un ex toxique, elle m'a fait vivre aussi l'enfer. Donc,
objection, je trouve que c'est connoté comme métaphore, votre honneur.
C'est connoté, mais on est là pour ça.
Donc du coup, c'est vrai que vraiment, la saison 1, j'étais méga fan, à tel point que j'ai un peu manigancé pour pouvoir aller au Press Junket de la saison 2, donc où j'ai pu rencontrer les acteurs. C'était à Londres, je m'en rappelle, c'était dans une espèce de station de métro, en fait, et à l'intérieur, ils avaient recréé une soirée genre médiévale avec une meuf qui mangeait le cœur d'un faux cœur de cheval, hein, comme Daenerys dans la saison 1. Du coup.
Ah.
Ouais, non, c'était assez atroce. Elle l'a fait genre 3 fois en plus dans la soirée.
Oh, c'est... 3 fois! Pour l'anecdote, ce cœur est fabriqué en Haribo fondu. C'est de la gélatine comme dans les bonbons.
Voilà. C'est pas vrai.
Eh oui.
Mais vous êtes pleine de ressources.
On a un problème d'addiction à Game of Thrones. On n'en a pas, Martino. Je fais mon travail.
Et du coup, effectivement, c'était intéressant parce qu'à cette soirée, il y avait plein d'acteurs, sauf qu'ils n'étaient pas en costume. Donc c'était très bizarre de les voir en vrai. Par exemple, il y avait le frère de Daenerys. Enfin, je m'éloigne un peu, mais tout ça pour expliquer que voilà, il y avait le frère de Daenerys. C'était très beau en vrai. J'ai dit oh là là, bonjour et tout. Parce que j'étais complètement bourrée à la bière de machin. Et enfin, voilà, j'ai parlé à Daenerys. Je lui ai dit vas-y, j'espère que ce sera toi qui sera sur le trône. J'ai fait une photo avec Bran. Enfin voilà, c'était vraiment. J'aimais cette série, je trouvais qu'il y avait vraiment un potentiel incroyable, et notamment autour des personnages féminins, que je trouvais vraiment super intéressant. La trajectoire de Daenerys en saison 1, qui commence vraiment comme une victime, une personne qui a aucune indépendance physique, psychologique, et qui dès la fin de la saison 1, en fait, montre déjà quelque chose d'hyper intéressant. Je trouvais que les personnages de Sansa et Daria étaient bien, je trouvais que le personnage de Cersei était incroyable, enfin, voilà. Donc, la saison 1, beaucoup d'espoir. Et en fait, cette série, au fur et à mesure, n'a fait que me décevoir. Il y a eu des hauts et des bas, mais il y avait certains trucs en fait, que j'ai très mal vécu en cours de série. On parlera tout à l'heure avec la scène...
Bien sûr, du retournage de cerveau.
En fait, ce que j'aimais dans Game of Thrones, c'était le côté... Et je pense que c'est ça qui a fait que c'est une série qui est devenue un phénomène. C'est qu'en fait... Toutes les séries et tous les films avant de fantasy, on avait l'impression que c'était des gens qui étaient nobles, qui pensaient au bien, qui pensaient à l'amour, machin. Et en fait, dans Game of Thrones, c'est des gens qui juste ont envie de baiser et d'avoir du pouvoir. Et donc, je pense que c'est aussi ça qui a fait que les gens se sont identifiés à cette série en se disant, en fait, ils sont comme nous, c'est des raclures comme nous, ils se conduisent comme nous, on se conduirait. Si on était à leur place. Et donc, en fait, ça montre que les gens sont les mêmes à travers les époques et qu'en fait, au final, la noblesse dont ces histoires se faisaient un peu le porte-parole, eh ben, en fait, ça montrait que tout était relatif, quoi. Que tout n'était pas noir, tout n'était pas blanc, qu'en fait, on est, voilà, des shades of grey. Mais voilà, donc moi, le principal reproche que j'ai à faire à cette série, c'est qu'elle a vraiment très bien commencé, même peut-être trop bien commencé à la hauteur, en fait, de ce qu'elle a proposé dans les, on va dire, 3 premières saisons. Et la chute n'en a été que plus dure, quoi. On parle quand même de la pire fin de série de toute l'histoire des séries. C'est quand même compliqué. Et après, on pourra un peu rentrer aussi un peu plus en profondeur dans les behind the scenes de la série. Donc, comment elle a été faite. Effectivement, elle est adaptée d'une série de livres d'un très grand auteur de fantasy, Grum. moi, alors les créateurs, je j'aime pas leur donner leur nom, donc je les appelle D&D, comme beaucoup de gens sur Internet. Donc, Franchement, effectivement, tu l'as dit, Alix. Vous l'avez dit, maître Alix, pardon. Ah, juge Alix.
Juge.
Votre honneur.
Mon honneur.
Alors, pour info, votre honneur, c'est aux États-Unis. En France, c'est Madame la juge.
Madame la juge.
Voilà. Donc, c'est la, péril, ça, c'est la série, en termes de réalisation, c'est la série la plus chère de l'histoire. On en prend plein les yeux pour le coup tout au long de la série. Ça, je peux pas bitcher, je peux pas dire, hey, c'est des radins, ils ont fait de la merde. Non, franchement, c'est une très belle série visuelle. Après, en termes de réalisation, on est quand même beaucoup sur du champ contre champ, mais en même temps, c'est normal, c'est des dialogues, beaucoup. Donc voilà. Mais mon mec, qui est très fan de cinéma, m'arrêtait pas de me dire quand je regardais, mais t'en as pas marre, on dirait les feux de l'amour, c'est champ contre champ, champ contre champ. Et en fait, en vrai, il a pas tout à fait tort non plus. Hein. Bref. Par contre, en termes de scénario, moi, j'ai un vrai souci avec la manière dont la série a été adaptée à partir, on va dire, de la saison 3. Je pense que ça a été beaucoup dit, mais le fait qu'il y ait une série de livres, du coup, on suit le livre et on, il y a vraiment, je pense, D&D ont très bien adapté la série dans le sens où ils avaient vraiment une vision de ce que ça pourrait donner dans le livre, ce que ça pourrait donner à l'écran. Donc ça, toutes ces saisons-là, en fait, sont vraiment bien, en fait. Les trois premières saisons, c'est vraiment inspiré, c'est vraiment... tu sens qu'en fait, ils ont voulu donner vie à quelque chose qu'ils avaient ressenti en lisant les livres. Mmh. À partir de la saison 4, ça commence à se compliquer. Sachant que, du coup, comme Grimm n'avait pas fini les livres, du coup, il y avait des moments où ils ont commencé à prendre des libertés, où ils ont commencé à rajouter des scènes, où ils ont commencé à...
Oui, ils n'étaient pas hyper bien managés, j'ai l'impression. C'était un peu dans le flou, tu sais, genre, ils étaient là...
C'est là que ça a montré en fait qu'au final ils étaient peut-être pas si talentueux que ça quand tu les laisses faire leur propre truc à eux, quoi. Parce qu'à partir du moment où on est parti à Dorne, où ils ont commencé à écrire des dialogues pour Tyrion qui n'existaient pas dans le livre, où ils ont commencé à vraiment développer des trucs de personnages qui n'étaient pas encore arrivés, mais bon, on sent qu'on leur a dit, bah en fait dans le livre il va se passer ça, donc tu l'écris, mais c'était écrit avec le cul. Enfin, je suis désolée, Jaime, c'est le personnage le plus maltraité de cette série, quoi. Au début il est trop bien, t'es là genre, ah c'est un énorme connard, puis après tu dis, ah non mais quand même, puis à la fin tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout dans cette série encore, il aurait dû crever il y a deux saisons, quoi.
Mais en fait, moi, ce que je trouvais un peu dommage, sans vouloir appuyer le point de maître
objection
Wanda,
votre honneur quand même,
mais en fait je trouvais dommage que la série au début nous avait promis tant de retournements, et tu sais, la fin des personnages, elle était inattendue, du coup tu pleurais beaucoup tes personnages, alors qu'à la fin j'avais l'impression qu'ils les tiraient jusqu'au bout, comme si on pouvait plus se permettre de les perdre. Et ça, c'est
ça s'appelle plot armor. Ouais, ils ne mourront jamais car ils ont l'armure du script, quoi. Enfin,
qui se souvient de Jon Snow et tous ses copains qui vont chercher un zombie au-delà du mur, oui, pour aucune raison.
Non, mais on y viendra
cette saison. C'est trop
bien de meurt.
dans les premières saisons, la mort est à chaque tournant, en fait, à chaque scène, quelqu'un qui meurt, t'es là genre quoi, mais c'est horrible. Et dans les dernières saisons, t'es là genre bon, lui, quand est-ce qu'il va crever, quoi. Enfin, bref, mais pour terminer sur cette partie-là, je voulais juste aussi rajouter le traitement quand même qui était dès le départ, le traitement des femmes et des minorités dans cette série dès le départ, ça allait pas, quoi. Vraiment. Hein. Après, voilà, je pense qu'ils avaient des jokers, ils disaient, hey, Daenerys, regardez. Et puis à côté de ça, on avait trois scènes de viol par épisode, on avait de la nudité gratuite tout le temps, on avait des personnages racisés qui étaient au second plan ou au quatrième plan et qui étaient sous-exploités, maltraités, quoi. En même temps, voilà, moi, en tant que femme racisée, quand je regarde des séries et des films, j'ai toujours une distance. Je me dis, bon, voilà, on ne s'attend pas non plus à un prix Nobel à ce niveau-là. Mais là, j'étais quand même surprise de voir à quel point ils se disaient, c'est nécessaire qu'ils soient là. Mais on les met en fond, et c'est globalement toujours un peu des esclaves ou des sous-fifres ou des personnes qui servent à rien. Et les femmes, c'est toujours des trucs qui font partie du décor, quoi. À part les personnages principaux féminins qui, eux, avaient le droit à une certaine écriture, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de choses à dire dans cette série. Je pense qu'on va pouvoir creuser un peu tout ça avec Maître Mimi derrière. Et puis quand on va parler de la fin, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur la fin de la série et sur comment cette série s'est autodétruite elle-même. Et comment maintenant elle a perdu tout son potentiel. Enfin, qui a envie de se faire une intégrale de Game of Thrones après avoir vu la fin, quoi ?
Ah, moi. Moi, j'y retourne.
Tu retournes alors qu'à la fin il se passe rien quand même.
Ben ouais, mais je sais pas. Pour moi, c'était ça sortait le quel jour, le mercredi ou le jeudi?
C'était lundi, gamin.
Lundi.
Dimanche aux États-Unis, voilà. Lundi en France.
Et du coup, le lundi, c'est si des... tu l'avais vu, fallait pas dire à tes collègues que tu l'avais vu parce qu'ils avaient pas vu encore parce que c'était le lundi soir. Enfin, voilà.
Mais moi, c'est trop un. Ouais, je sais pas. C'est trop un bon moment quoi. Pour moi, Game of Thrones, c'était on se met devant la télé avec quelqu'un, donc c'était soit mes collègues, soit je me souviens au bureau, même on faisait ça. Et c'est trop un moment de partage, de rassemblement. Du coup, j'ai trop envie de le revivre.
Une expérience communale. Ouais,
c'est je ça. Pense que la meilleure façon de revoir Game of Thrones, c'est de trouver quelqu'un qui ne l'a pas encore vu et de le revoir avec la personne en sachant, ce qui permet en plus à la personne de faire des théories, alors que toi, tu sais où on va.
Nulle part.
Good luck. On va quelque part pendant 4 saisons, ensuite on se balade, on fait une petite rando pour revenir au point de départ. Mais Lucie, l'ancienne rédac beauté de Mademoiselle, a découvert Game of Thrones pendant le premier confinement, donc mars 2020, après avoir... lutter par réaction à tout le monde en parle tellement que ça m'a saturé le cerveau, je n'ai pas envie de regarder. Et du coup, elle avait beaucoup de théories sur l'avenir de Jamie, de Jon Snow, etc. C'était du petit lait.
Vous verrez le lien dans les notes de ce podcast. Eh bien, merci beaucoup, Maître Wanga, pour cette belle plaidoirie. Maître Mimi, c'est à vous.
Tu pourras mettre une musique lyrique ou mélancolique.
Je mettrai toi qui dis « Est-ce que tu pourras mettre une musique lyrique ?»
Les mots sont faibles pour parler de ma relation à Game of Thrones. Il faut comprendre, votre honneur, d'où je viens. Comprendre que j'ai toute ma jeunesse lutté avec un ascenseur social en panne, non pas celui des classes, mais celui des loisirs. Celui qui considérait la fantasy comme un sous-art et les nerds comme autant d'humains inadaptés à la vie normale. Il faut avoir vécu un carnaval de lycée en 2007, déguisé en Daenerys, que personne ne connaissait, pour ressentir la violence de cette solitude.
Ma bichette.
2007 en Daenerys, ça oui, t'as dû te faire.
J'ai lu les livres au lycée.
Derrière.
J'étais seule. Pensez donc à mon état lorsque Game of Thrones a débarqué, adaptant sur les écrans les livres qui m'avaient tant fait vibrer. Souvenez-vous, personne n'y croyait. HBO avait mis la moula, mais avec prudence, comme on l'a dit. Les précédentes créations ambitieuses de la chaîne s'étaient cassées les dents, et la fantasy continuait à rebuter une partie des sériphiles qui ne savaient pas encore ce qui allait leur tomber dessus. Cette prudence fut l'un des ingrédients du succès. À budget limité, décor limité, beaucoup de séquences de la saison 1 sont de simples dialogues en chant contre chant entre deux personnages dans des pièces fermées. C'est le sel des œuvres de Grimm, ce phrasé moderne, ses ambitions n'ayant rien à envier aux traders de Wall Street, ce regard adulte sur la fantasy, bien loin de la pudeur tolkienesque et des bons sentiments façon Monsieur Frodon, Monsieur Frodon. Game of Thrones a invité le monde entier dans la cour des grands de la fantasy, et le monde a répondu. Soudain, le grand public a compris ce que nous, les nerds, avions ressenti quand nous avons posé le pied à Westeros pour la première fois.
Objection, est-ce que tu as toujours ton costume de Daenerys ?
Réponse, oui, car mon costume était tout simplement un sarouel ainsi qu'une blouse rose et des grelots achetés par ma mère pour un cadeau que j'ai tressé dans mes cheveux.
Trop mignon ! J'aimerais trop avoir une photo de Maître Mimi en Daenerys
Beaucoup
en 2007.
Beaucoup de gens ont demandé. Je pense que je me suis arrangée pour qu'elle soit toute détruite. Non, n'existe pas, c'est dommage. Il manquait cependant un détail, le petit truc qui rend accro, la ferveur. Il a fallu attendre la fin de la saison 1 et la mort de Ned Stark pour que le monde entier perde la boule et que Game of Thrones devienne le sujet de discussion à travers le globe, 10 semaines par an au moins. Game of Thrones est un accident comme la tarte tatin, mais ses ingrédients sont plus rares. C'est un programme comme il n'y en a aucune autre de par son contexte, basé sur des livres non terminés, diffusé sur une chaîne payante et exigeante à une période très précise de l'histoire des séries. Nous, lecteurs et lectrices des livres, avons pu partager notre univers et utiliser la menace de spoiler comme une arme avant que les cartes ne changent de main et que nous ne finissions par voir notre histoire révélée à la télévision alors que nous attendions désespérément de nouveaux livres. Spectateurs, spectatrices, lecteurs et lectrices ont cependant fini par s'unir autour d'une émotion commune, la déception.
La colère.
Oui, la fin de Game of Thrones a déçu, je ne le nierai pas. Je nuancerai légèrement les critiques en rappelant que D&D, les showrunners, ont signé pour une adaptation et non une création, et qu'ils n'avaient pas prévu que Grimm ne finisse pas la saga avant eux. Je rappellerai cependant qu'ils ont tout de même une grosse part de responsabilité, ayant notamment fait le choix d'arrêter la série vite, transformant une fin épique en une précipitation de scène, faisant honte à la qualité du programme.
Ouais, c'est
je ne nierai pas que la fin a déçu. Mais la fin ne doit pas effacer le chemin. Game of Thrones, ce n'est pas...
Comme quand on va à Villeurbanne, pardon.
Et bisous les Villeurbanais et Villeurbanaises. Game of Thrones, ce n'est pas une série, c'est un vécu. La ferveur des fans, les watch parties, les récaps rigolos, les théories absurdes, les secrets de tournage, les milliers de cœurs se brisant à l'unisson lorsque Robb Stark meurt sous les yeux de sa mère.
Les milliers
le spoil de... Alerte ! Objection !
Les milliers de cœurs battant à l'unisson lorsque Jaime pose son épée sur l'épaule de Brienne pour l'adouber, probablement le seul moment qui vaut le coup dans la dernière saison de Game of Thrones.
J'ai eu des petits frissons.
Oui, j'ai pleuré.
Non, mais j'ai eu des petits frissons là, quand on parlait.
Ah, merci. Game of Thrones a explosé à la fin de son vol, mais lorsqu'une comète illumine notre ciel, lui reprochons-nous d'avoir pris feu ou la remercions-nous ?
Comme tu y vas ? Objection !
Objection, votre honneur, l'avocate adverse me coupe la parole.
Reprenez à comète.
Je vais reprendre à comète. Mais lorsqu'une comète illumine notre ciel, lui reprochons-nous d'avoir pris feu ou la remercions-nous d'avoir rendu notre nuit plus magique ? Finalement, la vraie fin de Game of Thrones, ce sont les amis que nous avons rencontrés sur le chemin.
Oh là 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 !
Mic drop ! Que je ne ferai pas car c'est le matériel de l'entreprise.
Moi, dis donc, Mimi, j'ai l'impression que Maître Mimi est beaucoup dans la nostalgie.
Mm-hmm. Je suis dans le vécu, mais comme, tout comme toi où tu disais, en fait, je re-regarderais volontiers Game of Thrones pour me rappeler de ces moments vécus, pas tellement pour me retaper la saison 5 avec Jaime et comment il s'appelle ? Le pote Bron. De Tyrion, là, Bronn, à Dorne,
ah oui.
Qui font juste un tour de Dorne pour rien et qui reviennent.
Ouais.
Avec très peu de conséquences à l'intégralité de ce voyage.
Et on a quand même le pire dialogue de toute la série dans cette saison.
La bad pussy.
Oui, tu veux une gentille fille, mais en vrai, tu veux une bad pussy.
Là, déjà... Des mots prononcés par le sosie officiel de Najat Vallaud-Belkacem, ce qui ne rend la scène que plus gênante pour tout le monde.
Oh là là. J'ai l'impression que vous êtes quand même assez d'accord, mais que vous vous accrochez à différentes parties.
Il y a eu un accident industriel. Moi, en fait, ce qui me gêne dans cette série, c'est qu'en fait, il y avait des signes annonciateurs, mais on n'a pas voulu les voir. On s'est dit, mais non, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien joué, c'est tellement bien pensé que les trucs un peu chelous qu'on voit, le traitement des femmes, les scènes de viol, le fait que des fois les scripts prennent un peu des raccourcis, mais non, en vrai, ils vont quand même y arriver à la fin. Et la fin était tellement catastrophique et les mecs, ils se sont auto-cancel, quoi. C'est maintenant Game of Thrones, pour moi, ça a autant de poids culturel que les gens qui font des mariages déguisés en avatar. Enfin, tu vois, pas en bleu, quoi.
Oh, le headshot.
Le niveau de violence est débordant dans cette plaidoirie.
Est-ce que tout le monde a été déçu ? Moi, c'est une vraie question que je me pose.
Franchement, les gens qui ont aimé la fin...
Ouais, parce qu'elle est quand même impressionnante. Enfin, tu vois, il y a des scènes où les gens, en fait, étaient aussi déçus par la non-avancée de Game of Thrones et trouvaient cette série lente. Et la fin... Bon bah,
la fin c'est
ça bastonne. Ouais non mais ça bastonne dans tous les sens. Tu comprends pas trop pourquoi ni comment ni enfin voilà. Mais ça bastonne quoi.
Bah en fait moi je trouve que la réalité c'est immiscée dans la série. Moi c'est ça qui m'a vraiment profondément dérangée, notamment sur les deux dernières saisons. Je trouve qu'en fait ça se voit que les créateurs en avaient marre et que du coup ils avaient signé notamment pour Star Wars pour bosser sur le prochain Star Wars et ils avaient signé aussi potentiellement pour une autre série sur HBO qui s'appelait Confederate et qui avait ce magnifique pitch de se dire et si en fait l'esclavage était existait toujours aux États-Unis, ce serait pas cool et tout. On va faire une série sur ça. Donc voilà, ils étaient.
Quand on est deux mecs blancs.
Quand on est deux mecs blancs,
un maximum de 4 personnes racisées dans.
Qui traitons déjà l'esclavage dans nos séries de manière complètement à l'as-beul par-dessus la jambe. Et si on faisait une série confédérate.
Mais finalement, ils ont fait ni l'un ni l'autre.
Ils ont fait ni l'un ni l'autre. Donc en fait, ils ont pourri leur série pour rien.
Ils se sont sabotés et ils ont saboté leur série. Après, il faut se rappeler qu'ils avaient pas fait énormément de choses avant Game of Thrones. Et pas énormément de choses bien, car il y en a notamment l'un des deux à qui on doit X-Men Origins Wolverine, qui n'est pas un bon film. Croyez-moi, ce n'est pas la peine de le regarder. Ce n'est pas un bon film, vous ne voulez pas ça. Regardez plutôt Logan si vous voulez voir un film sur Wolverine, c'est très bien. Et ils ont eu, en fait, ils ont eu beaucoup trop d'ego, je pense. Il y a plein de choses.
À la fin,
en fait, il y a plein de choix des showrunners qui expliquent à quel point cette fin est ratée. Il y a le fait qu'ils aient voulu en finir vite avec la série, ce qui fait qu'on a une saison 7 et une saison 8 plus courtes, alors que c'est juste
alors qu'on leur avait demandé en plus de fait temps. Des séries entières.
Vu le succès, ils auraient pu faire 10 saisons sans problème. HBO aurait arrosé Game of Thrones autant de temps qu'il le faut. Ils n'avaient, je crois, aucune femme dans leur équipe de scénaristes, ce qui est aussi un gros problème au moment de caractériser, par exemple... Imaginons un personnage féminin qui changerait du tout au tout, qui passerait du côté clair au côté obscur et se révélerait être un petit peu instable psychologiquement et capable de raser une ville. Il faut un petit peu de finesse pour l'écrire, ce personnage féminin. Ouais. Et malheureusement, on a eu un plan où elle tourne la tête et ensuite elle brûle des trucs. Et n'oublions pas l'excuse que je préfère du côté de Benioff et Weiss, donc D&D, qui est que Daenerys aurait tout simplement, dans la saison 8, oublié l'existence de Euron Greyjoy et du coup n'a pas prévu que ses bateaux seraient là pour abattre ses dragons, ouais, car elle l'a oublié.
Et puis même les personnages, j'aurais un peu plus envie tout à l'heure de parler du personnage de Sansa, qui pour moi est un des personnages les plus maltraités par cette série. Mmh. Et
je crois que c'est la scène que t'as pris
et,
du coup.
Et du coup, je trouve que vraiment, il y avait vraiment une opportunité en fait de dire beaucoup de choses, notamment. Je veux pas spoiler ce que je vais dire.
Alors, ça tombe bien, puisqu'on va passer tout de suite au retournage de cerveau, la deuxième partie de ce procès. Ding, ding, ding. Round two. Donc, pour le retournage de cerveau, vous avez dû chacune prendre une scène, ou carrément un épisode de la série, replacer dans son contexte, et cette scène ou cet épisode viendra appuyer vos propos de l'instruction, un peu comme une preuve, et vous devrez tenter de faire passer l'autre dans votre camp, ou au moins de conquérir nos éditeurs et auditrices. Mélanie, je vous laisse commencer.
Alors, moi, j'ai envie de vous parler de cette scène donc, que j'ai déjà évoquée, qui est issue de la saison 5, épisode 6, qui s'appelle Unbent, Unbowed, Unbroken, en VO, en VF, je ne sais pas, mais bon, ça ne m'intéresse pas. donc, c'est la scène, l'épisode où Sansa Stark, du coup, la fille de Ned Stark, qui avait acquis un petit peu d'indépendance dans les derniers épisodes de précédents, dans le sens où elle était, il me semble, dans la... Alors, peut-être que Maître Mimi va pouvoir m'aider sur le nom.
Je suis là pour ça.
Mais dans la...
L'encyclopédie.
Elle avait été amenée par
Littlefinger.
Littlefinger dans un lieu.
C'est les Herriers, c'est le voilà. Château dans
avec la porte de la lune. Avec la Moon Door.
Sa tata zinzin, voilà. Lisa Arryn, qui allait ses enfants très longtemps, très cododo.
Parenthèse bienveillante. Et donc voilà. Et donc Sansa était là-bas et Sansa a commencé à avoir un semblant de pouvoir politique après avoir été maltraitée, agressée, séquestrée pendant plusieurs saisons. Donc on se disait, hey, pas mal. Or, ceci est un piège. Littlefinger marie Sansa sans son consentement, sans son accord, sans même qu'elle soit au courant, à notre ami Ramsay Bolton, qui est un psychopathe, violeur, meurtrier, tout ce qu'on veut.
My father said you're still a virgin.
Yes.
Why are you still a virgin? Afraid of dwarves?
Lord Tyrion was kind. He was gentle. He never touched me.
You're not lying to me.
No, my lord.
Lying to your husband on his wedding night. That would be a bad way to start a marriage.
Et donc, dans cet épisode, pour bien insister sur ce fait, et surtout pour montrer que le personnage interprété par Alfie Allen, Theon Greyjoy,
il y en a tellement de personnages,
se sent très coupable en fait de ce qui se passe parce qu'il a trahi lui-même les Stark au début de la série. Bon, voilà. Donc en fait, on a le droit à une scène de viol. C'est ni la première ni la dernière scène de viol dans Game of Thrones, mais c'est la scène de viol qui a fait le plus parler. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant des recherches, j'ai vu que les créateurs eux-mêmes de la série disaient au début de la saison 5, « Bon, alors, il va y avoir une scène, les gens seront pas contents, on est désolés, mais voilà, il fallait qu'on raconte ça. » Donc voilà. Donc le problème que j'ai avec cette scène, numéro 1, elle est complètement non nécessaire. Et c'est, en fait, c'est un problème que j'ai avec Game of Thrones en général. C'est-à-dire qu'on c'est une série qui regorge de violence envers les femmes. Et une des excuses de... Enfin, il y avait deux excuses. L'excuse numéro 1, c'est HBO. À quoi vous entendez ? De toute façon, on fait ça. Donc, ce qui, pour moi, n'est pas nécessairement une bonne excuse. C'est pas parce que c'est HBO qu'on peut tout accepter ou tout excuser.
Oui, et puis HBO était connu pour sa sexualité crue et parfois trash, mais on peut avoir une sexualité crue et trash à l'écran qui est consentie. On n'est pas obligé que ça soit toujours des viols.
L'excuse numéro 2, c'est à l'époque, les meufs, les gonzesses, je peux te dire que ça y allait, hein.
J'adore les gens qui te disent à l'époque, c'est pas une
époque. Dragons. À l'époque des dragons, je peux te dire que les meufs qui se faisaient violer, il y en avait beaucoup. Donc, à cette excuse, j'ai envie de dire numéro 1, effectivement, quelle époque. Numéro 2, est-ce qu'il y avait que des meufs qui se faisaient violer ? Est-ce que, par exemple, des hommes n'étaient pas violés ? Est-ce que des enfants n'étaient pas violés ? Pourtant, il n'y a pas ces scènes-là dans Game of Thrones. Donc, clairement, il y a un choix créatif de montrer des femmes se faire violer. C'est clairement un choix scénaristique de réalisation. Voilà. Et donc, le fait que ce soit un choix récurrent qui apparaît tout le temps comme ça, non seulement, en fait, pour les personnes qui regardent cette série, ça normalise, en fait, cette violence. Mais en plus, je pense que, voilà, les gens disent « Oui, mais il y a aussi des meurtres, il y a aussi des décapitations, et voilà. » Mais les viols, c'est pas la même chose. Montrer un viol, c'est pas la même chose que montrer une décapitation. Certes, c'est très violent, une décapitation, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont été décapitées qui sont obligées de regarder une scène de décapitation.
Généralement, une fois décapité, voilà. C'est compliqué de regarder des séries.
Alors que quand tu as été potentiellement violée ou agressée sexuellement et que tu subis en fait ce genre de scène à répétition, il y a quelque chose qui se passe aussi.
Oui, puis que ça devient un truc de identitaire de la série, en fait, oui. Que tu vas regarder.
C'est la série où on viole des meufs.
C'est la série où, en fait, on dit pas on viole des meufs, mais les scènes de cul sont crues. Et en fait, ça va plus loin que ça, en fait. C'est pas simplement des scènes de cul cru.
Ouais. Bah oui, et puis même, des scènes qui, à la base, n'étaient pas des viols ont été transformées en viols par la série. Par exemple, la scène avec Daenerys et Khal Drogo, dans la saison 1. Il y a eu la scène aussi avec Daenerys et Jaime.
Jaime et Cersei. Quand Joffrey... J'aimerais bien... Je pense qu'il y a beaucoup de fanfics sur Daenerys et Jaime. Mais effectivement, Jaime et Cersei est beaucoup plus... Alors, dans le bouquin, on peut dire que c'est un peu flou, parce que certes,
ouais, c'est chelou.
Elle dit une fois non, et après, ça part dans ce qu'on... Moi, je l'ai interprété comme de la passion, où elle dit non parce que le contexte ne s'y prête pas, et finalement, elle en a envie quand même. Dans la série, c'est quand même beaucoup non, et Jaime qui va beaucoup.
Ouais.
Et rappelons que les showrunners n'avaient pas considéré ça comme un viol.
Voilà.
Au moment où ils l'ont.
Donc, déjà, voilà, il y avait tout ça. Mais avec la scène de Sansa et de Ramsay, on est dans autre chose. On est dans une scène qui est clairement, je pense, dans l'œil des créateurs, un viol.
Oui.
Donc, pour le coup, c'est une scène qui est, donc pour moi, je trouve non nécessaire, qui est traumatique et qui même n'a aucun sens en termes de storytelling. En fait, en vrai, tu peux tout à fait montrer le fait que Sansa est violée sans en fait qu'on passe par cette scène-là, en fait. Tu peux montrer l'après, tu peux montrer l'avant, l'après, tu peux montrer Sansa qui en parle. Enfin voilà, c'est vraiment pareil, toujours, encore une fois, un choix de montrer cette scène-là. Mais le pire, c'est que c'est une scène qui n'est pas vue à travers les yeux de Sansa. À la limite, tu pourrais dire, ils ont voulu montrer ce que c'est une scène de viol à travers les yeux de la victime. On est même pas là, on est à travers les yeux de Theon qui regarde Sansa être violée par Ramsay. Et donc, c'est vraiment encore... C'est du male gaze partout, en fait. Enfin, c'est horrible. C'est vraiment, pour moi, une des pires scènes que j'ai vues dans une série. J'étais vraiment choquée parce que, en fait, pour moi, déjà, de base, une scène de viol, c'est très rare qu'il y ait une vraie justification derrière. Mais là, clairement, il n'y avait pas de justification. Et clairement, c'était tout ce qu'il ne fallait pas faire, en fait, dans une scène de viol. Et du coup, le magazine en ligne de pop culture The Marisou a décidé d'arrêter de couvrir la série suite à cette scène. Ils ont dit, c'est fini, on fait plus de recap de Game of Thrones.
Ce qui est une décision quand même très lourde, parce qu'on est saison 5, donc Game of Thrones continue à être un levier d'audience pendant 4 ans encore, quoi.
Et pour moi, en fait, on parlait tout à l'heure qu'au fur et à mesure, il y avait des red flags, où on se disait, mais c'est bizarre et tout. Moi, là, quand j'ai vu cette scène, et quand j'ai vu cet épisode, qui en plus était un des épisodes les plus mal notés de la série, hein, c'est vraiment, il se passe rien dans cet épisode, à part cette horrible scène qui, en plus, est à la fin, où je me suis dit, mais en fait, elle a un problème, cette série, quoi. Si on en est là, au bout de la saison 5, il y a vraiment un souci. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris, en fait, dans ce qu'ils essaient. Je ne comprends pas ce qu'on a essayé de me transmettre à travers cette scène. Et donc, pour moi, c'est une scène très grave, que je trouve qui a porté préjudice à la série et qui a aussi porté et qui a annoncé en fait des trucs derrière où on se disait bah de toute façon ils ont fait cette scène donc évidemment que ça ils vont faire de la merde là aussi donc voilà, pour moi c'est la pire scène de la série. J'aurais aussi pu prendre d'autres scènes à la fin de la série qui sont bien bien nulles.
Plus on avance dans le temps, plus il y a des pires scènes quand même, hein.
Mais voilà, là pour moi c'était vraiment un tournant de la série, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette scène.
Et j'ai l'impression aussi que parmi les personnages principaux féminins, il y a que Arya, alors vous me stoppez si je me trompe, il n'y a que Arya qui s'est pas fait violer.
Bah au final, comme ils ont violé Sansa et Cersei, ce qui donc pour Sansa ce n'est pas dans le livre, pour Cersei c'est un petit
Daenerys
peu plus flou,
aussi,
mais là le rapport sexuel est
présent. Ouais.
Oui, après Daenerys, le truc, je comprends, en fait donc Daenerys, sa première relation avec Khal Drogo, dans le bouquin, il attend jusqu'à ce qu'elle dise oui. Mais bon, on sait quand même qu'elle n'a pas vraiment le choix. Elle peut pas dire non pendant 8 ans. Et il y a une grande différence. En fait, je comprends qu'il l'ait changé en viol dans la série, parce que je pense qu'ils se seraient fait allumer s'ils avaient montré ça comme une relation consentie.
Bah, de toute façon,
entre une femme très jeune mariée de force à un homme plus vieux dont elle parle pas la langue.
Ce truc était problématique dès la base. À la base, hein, enfin.
Oui, la relation
avec
Caldrogo.
Le fait qu'elle ait genre 13 ans dans le livre et que l'autre il en ait je sais pas combien. Enfin.
Voilà, donc ça je peux comprendre. Donc je pense.
Mais ouais, c'est.
Sauf si on compte Brienne comme personnage féminin. Brienne n'a pas été. Enfin, principale, elle n'a pas été violée non plus. Mais dans les personnages féminins de base, donc. Bah, il y avait Catelyn Stark. Qui n'a pas été violée, mais
qui a été égorgée.
Ouais.
Ah bah on peut pas tout avoir dans la vie.
Non mais enfin je trouve ça fou parce que les personnages de Game of Thrones, j'ai l'impression, sont considérés comme des allégories des femmes fortes, tu vois. Et elles sont aussi mises plus bactères par la série et je trouve ça hyper dommage de pas réussir à écrire un personnage féminin fort sans lui faire subir des trucs atroces.
Mais
et...
parce que pour beaucoup de scénaristes, en fait, justement, ton personnage est fort parce qu'il a un trauma et parce que ce trauma, c'est du viol. Parce qu'en gros, ils ont... Enfin, oui, c'est des hommes qui ne savent pas écrire des femmes, en fait. Parce que ce trauma-là, c'est vraiment un truc réservé aux femmes. Comme je disais tout à l'heure, il y a très peu d'hommes. Il y en a, mais il y a très peu d'hommes dans la série qui ont été violés. Il y a encore moins d'hommes qui ont été violés à l'écran. Enfin, c'est vraiment quelque chose de récurrent, notamment dans la pop culture. Mais là, c'est, je pense, la distiller dans sa forme la plus pure, quoi. Et c'est... Moi, c'est vraiment ça qui me dégoûte, en fait, dans cette série, quoi.
Mais je pense que cette scène, c'est un bon choix parce qu'elle est caractéristique de beaucoup de choses qui vont mal se passer, comme tu as dit dans Game of Thrones. La saison 5, c'est la première où ils n'avaient plus de bouquin du tout. Donc, on sent qu'il y a beaucoup de tâtonnements et de... Qu'est-ce qu'on fait de tous ces personnages maintenant qu'on n'a pas les petits trous, en fait? C'est que ça fait beaucoup de choses avec lesquelles jongler. L'intrigue avec Sansa existe dans le livre, mais c'est pas Sansa, c'est un autre personnage. Donc je peux comprendre qu'il soit dit, en fait, on va pas rajouter un personnage féminin saison 4 qui est en plus à Winterfell, qui est censé être une fausse Arya, ça va être complexe pour tout le monde. Mais on a besoin que Sansa finisse à Winterfell pour aider Jon Snow par la suite. Marions-la à Ramsay, pourquoi pas finalement? Mais déjà, le personnage de Ramsay est déjà caractérisé. On sait que c'est un tortionnaire, etc. Mais par contre, il n'a aucun aspect sexuel pour le moment. Donc, pourquoi il aurait pu avoir une menace de torture chez Sansa. On connaît déjà cet aspect du perso. On n'était pas obligé de rendre ça sexuel comme violence. Et surtout, malheureusement, ce viol ne sert qu'à déclencher Theon pour qu'il échappe à l'emprise psychologique de Ramsay et fasse évader Sansa en s'évadant. Donc en plus, c'est un viol qui n'aura aucune incidence sur la suite du parcours de Sansa. Elle n'en reparle, je crois, jamais.
Elle en reparle vaguement. Plus ou moins. Elle dit quand elle retrouve Jon Snow, il lui dit « Maintenant, je vais te protéger. » Elle lui dit « Tu peux pas me protéger. Personne ne peut protéger personne, en fait. »
Oui, on sent qu'elle a été traumatisée, mais elle a été traumatisée par tellement de choses aussi dans sa vie, la pauvre petite.
Mais en fait, ce personnage, pour moi, c'est pour ça que je voulais parler d'elle. C'est parce que, notamment, c'est un des personnages qui a reçu le plus de haine sur Internet parce qu'au début, elle était amoureuse de Joffrey. Bon. On fait toutes des conneries hein, dans la vie. Mais
oui. On a tout un ex dont on n'est pas fiers.
mais voilà, c'était une enfant et en fait, elle a été vachement comparée, comme tu disais, à Arya, qui était le personnage one of the guys. Tous les mecs étaient là, genre, ouais, Arya, elle est trop bien parce qu'elle sait se battre, parce qu'elle aime pas les mecs et parce que machin. Et Sansa, c'était. Au début, c'est tout le temps c'est des archétypes, en fait, pervertis, quoi, retournés et tout. Et Sansa, donc, c'était l'archétype de la princesse qui, du coup, au fur et à mesure, souffre et à la fin devient autre chose, une matriarche. Et en fait, la haine que ce personnage recevait, ça n'a jamais été mon personnage préféré, mais je trouve que ça voulait dire beaucoup, en fait. Qu'une jeune fille qui a subi énormément de violences, son père se fait assassiner, elle est séquestrée, elle est maltraitée, elle est violée, machin, et c'est le pire personnage de la série.
Ouais.
Ça pose question, quand même.
Oui, je suis hyper d'accord. Merci de nous avoir bien retourné le cerveau, Maître Mélanie. Maître Mimi, je me tourne vers vous pour nous parler de votre scène ou de votre épisode.
Retour de la musique lyrique. Nous sommes le 2 juin 2013. Des centaines de milliers de personnes lancent le nouvel épisode de Game of Thrones, car la hype a dépassé les sériephiles, et c'est maintenant le monde entier qui regarde cette nouvelle saison. Arya Stark est menée jusqu'à sa famille, qu'elle va peut-être enfin pouvoir retrouver. Bran Stark développe ses nouveaux pouvoirs. On sait à quoi ça servira. Jon Snow tourne le dos au sauvageon au-delà du mur et se fait planter par sa petite rouquine en partant. Daenerys Targaryen prend le contrôle de Yunkai, cité esclavagiste. Mais le monde n'est suspendu qu'à une chose. La cotte de maille sous la tunique de Roose Bolton, son serrure en coin, la terreur dans les yeux de Catelyn Stark. Les pluies de Castamere résonnent. Talisa, l'épouse de Robb Stark, est tuée, son ventre de femme enceinte poignardé pour affirmer, s'il le fallait, que l'éphémère King in the North n'aura pas d'héritier. Le jeune homme qui voulait venger son père échange avec sa mère un dernier regard, dans lequel on voit toute la peur d'un enfant trop vite grandi, qui paye de sa vie sa première erreur stratégique, une erreur d'amour et de jeunesse. Kathleen Stark hurle et il y a dans ses cris toute cette douleur qui n'a pas de nom, celle d'une mère qui perd son enfant, avant de mourir elle aussi. À quelques mètres de là, Arya côtoie sans le savoir la déchirure de sa famille, symbolisée par le grotesque cadavre de Robb Stark, coiffé en injures posthumes de la tête de son loup, car le jeune loup a perdu.
Vous devriez écrire des séries, hein, Mimi.
C'est la fanfiction.
La fanfiction.
Go, je vais faire un Tipeee pour la fanfiction.
On my honor as a Tully, on my honor as a Stark, let him go, or I will cut your wife's throat.
I'll find another.
Mother.
The Lannisters send their regards.
Si vous n'avez pas les poils en y repensant, votre honneur, je ne peux rien faire pour vous. Souvenez-vous de ce moment, pas seulement de vos émotions personnelles, mais de la ferveur populaire. Le Red Wedding, c'était la défaite en Coupe du Monde, c'était le coup de boule de Zidane, c'était la terre entière qui prenait en pleine gueule la vérité éternelle, la vie est une chienne et à la fin on meurt. Ensemble, nous avons souffert, ensemble nous avons guéri, ensemble nous avons vécu et digéré cette douleur, ensemble nous avons hurlé sur nos télés et écrans d'ordinateur, car c'était ça finalement Game of Thrones, le vivre ensemble.
On pourrait même dire le mourir ensemble.
Mais ouais.
Le vivre puis mourir ensemble.
Moi en fait, je me suis dit, c'est pas possible.
Ils n'ont pas le droit de faire ça.
Ils n'ont pas le droit et c'est vraiment... Ouais, un des... Mais comme tu dis, en fait, un des pires et un des meilleurs moments parce que... Waouh, toutes les cartes sont redistribuées et moi, c'est ce que j'attendais énormément de cette série, même dans la saison 1 quand Sean...
Ned.
Ouais, Ned. se fait décapiter, tu fais... Hein ?
Mais attends, c'est le héros, c'est Boromir.
Mais c'est lui.
C'est le gentil, lui.
Pourquoi il meurt dans tous les films ? Mais ouais, je trouvais que c'était un peu leur dernier coup d'éclat. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y en ait eu vraiment derrière, après cet épisode-là.
Bah après, il y en a eu, mais ils avaient beaucoup moins de sens, en fait.
Ouais.
Je pense, par exemple, je sais pas s'il y a un nom, mais quand Cersei fait exploser la cathédrale où il y a tout le monde réuni oui. Et que ça pète, que ça fait le... Ça fait
si, elle tue Margaery, quand même.
Margaery et tout. Ça, c'était un énorme coup d'éclat, mais... scénaristiquement ça a pas de sens en fait
parce en que... fait ça a un peu de sens et je pense que le fait que Tommen se suicide à ce moment là, donc Tommen son fils et qu'elle perde du coup tous ses enfants, c'était son dernier
ouais.
ça a un impact scénaristique mais et émotionnel fort.
Le coup en fait qu'elle fait quand tu compares en fait en termes de scale de, en termes d'échelle par rapport à la saison 1 où genre juste la décapitation d'un mec c'est oh mon dieu et tout, là la meuf elle fait exploser une cathédrale avec 55 personnes dedans et puis bon, épisode bon. Suivant, voilà quoi, elle continue, elle est là, il n'y a personne qui se retourne contre elle. Ça, en fait, en vrai, ça n'a plus de sens, c'est tellement
oui,
énorme.
Oui, je suis d'accord.
Ils sont obligés d'aller à chaque fois de plus en plus gros.
Ouais, ouais, mais c'est un peu l'escalade.
Un truc comme ça arrive en saison 1, il y a une guerre civile, tu vois, alors que le truc arrive en saison 6, je crois, et elle est genre, il se passe rien, quoi, elle reste toujours reine et tout. Du coup, c'est pour ça que je dis, scénaristiquement, les trucs ont de moins en moins de sens.
Ouais, et puis je pense qu'il y a une vraie, enfin, dans l'écriture, j'ai pas lu les bouquins, moi, mais dans l'écriture des livres, il y a une vraie politique en fait, c'est-à-dire que le gars a inventé un royaume
ah,
il y a
oui,
des
oui,
vrais
oui,
ressorts mais... politiques oui. Alors qu'en fait après tout tient à une
ouais, au personnage, bah, personnage. Comme tu disais tout à l'heure qu'on pousse jusqu'à la ligne d'arrivée genre
ouais, c'est ça.
Ça devient une fanfiction en fait, c'est ça, et c'est ça le problème, mais la métaphore fonctionne parce qu'effectivement il y a eu des moments très forts. Après il y a eu Jon Snow qui quand même meurt et ressuscite, ce qui normalement devrait être deux événements incroyablement puissants émotionnellement ouais. Mais en fait, quand il meurt, je pense que personne n'y a trop cru.
Personne. Alors,
c'était,
moi,
c'était à la fin d'une
cru
saison,
du tout.
Ça. Mais on savait tous, c'était tellement mal amené. On était là. Ouais. Ah bon, il va revenir. La question, c'est juste comment il va revenir. Ça, pour le coup, c'est pareil dans le bouquin. Il se fait planter. Absolument personne qui a lu les livres.
Cendre qui le ramène, quoi.
Bah, en fait, il n'est pas encore ressuscité dans le bouquin. Rappelons que nous n'avons pas de nouveaux livres depuis 2012. Ma vie est une fête. Du coup, Jon Snow est mort officiellement dans les bouquins. Il n'a pas ressuscité, mais absolument personne.
Est-ce que peut-être mieux qu'il le reste. Hein.
Ouais. Non, mais tu crois que peut-être il va se dire bon, ça n'a pas trop marché, je pense qu'on va le laisser mort.
Mais moi, si j'étais Grum, j'aurais trop le seum. Je ferais ok, je vais tout changer.
Mais ouais, moi aussi. Hein.
Bah, j'aimerais bien comme ça. J'aurais encore plus d'intérêt à lire les livres puisque ce sera une fin différente. Mais donc, oui, il y a des moments aussi forts qui auraient pu être aussi forts que le Red Wedding qui ne le sont pas parce que, on va pas se mentir, sentir l'écriture périclite à partir de la saison 4 quand il n'y a plus de livres, l'écriture des personnages, la cohérence scénaristique, et puis l'implication enjeux, aussi, quoi.
Les enjeux, tu vois, t'es là, genre, les enjeux des premières saisons, t'es là, il se passe un truc, tu dis putain, mais c'est impossible, ils ont tué Ned, putain, et... ou même le premier épisode où tu vois Cersei qui couche avec son frère, t'es là, genre quoi,
mais c'est dégueulasse!
Alors qu'après, tu vois des meufs qui se font violer partout, tu vois des Cersei.
Mais alors, du coup, est-ce qu'on s'habitue aussi à la violence? Est-ce qu'une série comme ça, est-ce qu'elle est trop violente et du coup on s'y habitue, on a besoin que ça aille toujours plus loin?
Je pense que c'est à ça qu'ils essayent de répondre sur les dernières saisons avec les gros coups d'éclat qu'ils font, tu vois. Sauf vraiment à la toute fin où ils tuent le roi des... J'allais dire le roi des rats, mais...
Le roi des White Walkers.
Ouais, le
Night King.
Le Night King. Enfin, tu vois, même ça, qui aurait dû être un moment incroyable et tout, c'est nul, c'est quoi. Nul.
Ouais, et puis surtout, moi je trouve que ça ressemble beaucoup à un... je vais dire un truc qui va peut-être déranger, mais un Marvel.
Je ne vais pas défendre la profondeur scénaristique des Marvel, votre honneur.
Mais non, mais parce qu'en fait, moi quand je regarde un Marvel, je sais ce qui va se passer. Ouais. Et en fait, Game of Thrones, je me souviens qu'on savait tous ce qui allait se passer et qu'on regardait parce que, je sais pas, il y avait quand même un truc qui liait tout le monde, on voulait voir ce qui allait se passer, mais parfois c'était juste, on regardait pour savoir qu'on allait bitcher derrière, quoi. C'était... Et du coup, c'était un peu gênant les dernières saisons, mais. C'est quand même.
Mot. C'était malaisant, oui, un petit
mais
peu.
Quand même, moi, j'avais toujours hâte.
C'est le rituel qui marche.
C'est le rituel.
Ce qui est peut-être impossible à reproduire, comme tu l'as dit, avec, comme vous l'avez dit, votre honneur, oui, entre Netflix qui met en ligne ses saisons d'un coup et le fait que plus personne ne suit vraiment la temporalité d'une chaîne, c'est très compliqué d'avoir cette discussion, comme on dit, de machine à café, de « oh là là, on va tous parler du nouveau Game of Thrones parce qu'on a tous regardé au même moment, le même jour, et qu'on a tous la même envie de savoir ce qui se passe. Maintenant, c'est beaucoup trop éclaté, les habitudes de visionnage. Donc peut-être que Game of Thrones était aussi le dernier moment où le monde s'est uni autour d'une série. Peut-être que ça n'arrivera plus. C'est possible.
Il y a eu un petit peu WandaVision, mais c'est vrai que c'est pas du tout le même.
C'est peu comparable.
Hein. Ouais, c'est pas la même chose quand même. Enfin, ceux qui regardaient pas Game of Thrones étaient vraiment exclus.
On les embrasse.
On les embrasse.
Même s'ils n'écoutent probablement pas ce podcast, car 2 ans après, on est encore en train de leur casser le cul avec Game of Thrones.
Allez, on va passer à la 3e étape de ce procès, le jugement.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Dans le jugement, qui est la 3e et dernière étape de ce procès, vous infligerez des peines à la série et tenterez de vous mettre un peu d'accord dessus. Alors, Maître Mélanie, qu'est-ce que vous avez infligé comme peine à Game of Thrones?
Alors, on est anticarcéral, mais...
on fera une exception pour D&D.
Tous les violeurs de cette série... contre tous les violeurs de cette série, je requiers 20 ans de prison, donc 15 fermes, plus un an de travaux d'intérêt général. Car en fait, il y en a beaucoup, et je pense qu'il est important de réparer le fait que...
Il n'y aurait plus que des meufs.
et normaliser le viol envers les femmes pendant 8 ans, quoi. Donc, ouais. Non, c'est chaud.
Notons que, dans une vague idée de justice féministe, tous les violeurs de Game of Thrones sont morts dans Game of Thrones. Donc au final, ils n'ont pas profité longtemps des fruits de leurs méfaits.
Ah ouais, ils sont tous morts.
Bah il reste Bran, ça va. Jon Snow, ça va. Tyrion, ouais. ça va. Sam, la pureté
ça
incarnée.
Va.
Sam. Au final, il reste pas beaucoup.
Littlefinger, hein, il est mort.
Ok. He's dead.
Okay. Mais bon. Okay. Globalement, voilà.
J'ai jamais vu.
Je décerne le Girl Boss Award à Cersei Lannister pour l'ensemble de son œuvre.
Une entrepreneur et une manager qui, ma foi, inspire les foules, même encore aujourd'hui.
Tout à fait, et qui n'hésite pas à laisser d'autres femmes dans la panade, à l'abri, enfin même pas à l'abri, hein, mais qu'elle les jette dans la gueule des violeurs. Enfin, voilà, non, Cersei, bravo.
la sororité.
Je dis ça, mais en vrai, c'est peut-être mon personnage préféré aussi.
Mais moi, c'est vraiment mon personnage préféré.
L'actrice était tellement bien.
C'est ça, et c'est surtout... En fait, moi, un personnage préféré, c'est parce qu'il est bien écrit. Elle est extrêmement bien écrite, pour le coup. Les autres, c'est discutable, mais elle... En fait, il y a une double... Elle veut à la fois le pouvoir et c'est en même temps une mère. Et je trouve
et en même temps une bitch.
Et en même temps une bitch. Et en même temps une amante. Et en même temps... Enfin, c'est... Je trouve qu'elle est... Elle est complexe.
C'est un peu la Regina George level
ouais.
supérieur.
Ouais, bah, ouais.
Cersei, mais c'est, encore... c'est une méchante à cause du patriarcat. La vilaine origin oui. story de Cersei, ouais. c'est littéralement...
Parce qu'elle a pas pu
je
être
Je suis
roi, quoi.
Née en mmh. même temps que mon frère, on est ouais. la même personne, et je suis incapable d'avoir sa vie parce que j'ai un vagin. Et c'est ça qui va la rendre zinzin toute sa vie.
Donc, en même temps, lui aussi, il a eu une VDM, donc bon.
Au final, oui, mais bon, il aurait pu faire
oui,
d'autres
à
choix.
À la base, il était censé être...
Il n'était pas obligé de prendre le CDI à vie dans la Kingsguard, quoi.
Je décerne une médaille d'or d'escrime à Arya Stark pour son acte dans le dernier ou avant-dernier épisode où elle tue le Night King de manière tout à fait inattendue, un peu décevante, on va pas se mentir.
Ouais.
Mais bon, enfin moi, tout le truc sur les marcheurs blancs, je me disais putain c'est génial, ils font une métaphore du réchauffement climatique, on va tous crever et tout.
Et à la fin, non, le mec s'est fait juste buter, quoi.
Ouais, non. ouais. Enfin, en fait, c'est un peu écarté comme ça. Ils sont là, qu'est-ce qu'on voulait faire déjà?
En fait, on s'en fout. Alors que tout le truc de la série, c'était en fait vos petites bagarres d'ego. On s'en tape parce que vous allez tous
mais
crever.
Mais oui,
quoi.
Exactement.
Et là,
non, trop
c'est
déçu.
C'est lui qu'on dégage. Tu fais bon, ok. Et en fait, ce qui compte, c'est les batailles d'ego avec des bouteilles d'eau par terre pendant que les gens discutent. Enfin, c'est non, c'est... je ne comprends pas.
Alors, je décerne une punition à Grum pour le retard sur le rendu de la rédaction.
Ah,
il aurait
oui.
dû rendre son manuscrit quand même.
Ah bah, une colle, hein.
Donc, une colle et au tableau, je rendrai mon manuscrit à l'heure 150 fois. Je décerne un bonnet d'âne et bah après c'est voilà un bonnet d'âne pour D&D et mais eux-mêmes se sont mis le bonnet d'âne sur la tête et eux-mêmes ont fumble the bag comme disent les Américains puisqu'ils
est-ce qu'ils ont été au coin tout seuls se mettre genre on a compris on y va
on leur pas a donné grave. Un sac
Pardon.
D'argent ils ont dit non en fait on s'en fout donc voilà eux-mêmes tant pis pour eux
on n'a pas besoin de ça on est trop fort
punis eux-mêmes et je décerne pour le coup ils ont perdu leur argent, mais je leur décerne aussi une peine de prison pour la fin de la série. Car avoir mis Bran, qui était un de mes personnages préférés au début, c'était pas le cas de beaucoup de gens. Mais moi, j'aimais bien Bran. Je trouvais que l'inversion entre Bran et Arya, que ce soit la fille qui veuille tout le temps se battre et être chevalier, et que le petit garçon soit plus en mode « Lis-moi des histoires, raconte-moi des trucs de zombies », je trouvais ça intéressant. J'aimais bien l'acteur, j'aimais bien le personnage. Mais par contre, il avait rien à foutre sur le trône de fer, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Surtout qu'en plus, eux-mêmes, ils le disent à un moment dans la série où il dit « Je ne peux pas être le roi de... Enfin, je ne peux pas être un seigneur, car je suis le Freehide Raven », je sais pas comment on dit en français.
La corneille à trois yeux.
La corneille à trois yeux, donc je ne serai jamais le lord de quoi que ce soit. Et à la fin, il dit « Hey, en fait, j'ai attendu ça depuis le début de la série !» Et tu dis « Non, mais... » Mais on se fout de ma gueule ! Donc,
ouais, non,
peine de prison, petite peine de prison, mais un an, je pense que c'est bien quand même pour D&D, avec le bonnet d'âne sur la tête.
Voilà. Le temps de réfléchir à leurs erreurs.
De toute façon, comme ils n'ont plus de projet, en attendant.
Qu'en pensez-vous, Maître Mimi ?
Je trouve tout cela très juste. Peut-être même un petit peu, comment dire, on aurait pu être plus dur sur certains jugements, certaines peines, dont D&D. Je pense qu'on peut les mettre quelques années quand même en prison. Parce qu'ils ont vraiment... Je n'arrive
fait
pas...
Fait caca dans la culotte.
Tout à fait. Je n'arrive pas à voir quelle autre responsabilité que la leur, en prenant en compte le fait que George R. R. Martin aurait dû avoir fini les bouquins, certes. Mais ils se sont juste obstinés dans leur truc et ils ont refusé d'avoir l'humilité de dire on va pas y arriver tout seul, on va prendre le temps et on va embaucher des gens, plus de gens.
Vous imaginez s'ils avaient embauché des femmes et des
ça
personnes racisées pour écrire.
Incroyable. Alors cela dit, je pense qu'à mi-série, s'ils avaient mis des meufs à l'écriture, on aurait vu le shift très vite et on aurait peut-être échappé au nombre viol qui émaille la deuxième moitié de Game of Thrones, donc ça aurait été bien. Donc grosse peine de prison. Pour ma part, j'ai une seule peine, une seule réquisition pour vous. Elle est modeste, comme d'habitude. Avec
oui,
moi.
Bien sûr, je la connais et elle est très modeste, oui.
Puisque j'accorde à Game of Thrones, pour l'ensemble de son œuvre, un prix Nobel de la paix. Car unir le monde entier dans la joie comme dans le seum, c'est quand même pas donné à tout le monde.
Ouais, moi je suis.
Un petit radis, peut-être.
Moi je suis assez d'accord, hein. En vrai, unir les gens à ce point...
Une des questions que George R. R. Martin s'est posée et qui ont fini par le mener à écrire Le Trône de Fer, c'est qu'est-ce qui se passe dans Le Seigneur des Anneaux, spoiler Le Seigneur des Anneaux, quand à la fin, Aragorn devient roi, ok, mais finalement, c'est quoi sa politique pour les impôts et comment il prélève des taxes ? Est-ce que c'est un roi sympa ? Est-ce que les gens l'aiment bien ? Parce qu'en fait, on voit juste qu'il a sauvé le monde et qu'il devient roi, mais le vrai boulot commence quand t'es sur le trône et que tu dois gérer tout ça. Donc faire une fin qui ne... qui ouvre autant de questions, c'est peut-être limite un peu
Aragorn,
trahir.
Aragorn, c'est Robert, en fait.
Aragorn, il y a moyen que ce soit Robert, parce que je pense que sa vie, Aragorn, c'est pas d'être assis sur un truc et de faire des réunions, tu vois. Et alors que Bran, bon, à la limite... Mais en fait, Bran, c'est un état de surveillance totale à la fin. C'est Big Brother, le mec voit tout, il peut rentrer dans la tête des gens, il voit le passé, le présent, le futur. C'est très inquiétant qu'il soit roi. Ça pourrait faire une bonne suite, mais ce ne sera pas le cas.
Tout ça à cause de Tyrion.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce procès. Merci, Maître Mimi, merci, Maître Mélanie, d'avoir participé. C'était trop cool.
Du coup, c'est quoi le verdict du juge ?
Verdict, bah écoutez, on accepte tout, j'ai l'impression, non ? C'était à peu
le
près...
Le prix Nobel compris ?
Moi, je l'accepte.
Allez !
Moi, je l'accepte parce
merci
que j'aime
votre
bien...
Merci, votre honneur, votre professionnalisme vous honore.
Non, bien sûr, d'habitude.
Bon, bah, voilà, c'est un procès compliqué parce qu'on est d'accord. On est d'accord pour dire que Game of Thrones, le chemin était cool, la fin était nulle. C'est juste que moi... Ouais, le fait que la fin soit nulle n'annule pas le plaisir du chemin.
Alors non, il y a quand même eu des trucs soulevés entre-temps aussi, tu vois, au cours de la série qui ont été problématiques.
Mais on est d'accord, tu vois, je vais pas aller défendre le viol de Sansa par Ramsay, je me suis pas levée ce matin pour ça, t'inquiète pas. Donc on est d'accord, c'est juste que je vois le verre à moitié plein, on va dire. Je ne pouvais pas ne pas venir défendre Game of Thrones.
Je sais bien, Mimi. Merci à vous deux.
Merci.
Merci.
Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté ce houleux procès d'afficher jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous au podcast pour recevoir toutes les notifications et laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast en précisant quel film ou quelle série vous aimeriez voir dans les procès d'afficher. Parlez aussi de ce podcast autour de vous, vous savez comme on est friande du bouche à oreille. Et rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode d'afficher.